Sud Vendée Sport, Antoine Judith.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Sud Vendée Sport, nouvelle édition du Sud Vendée Sport sur Dig Radio Sud Vendée. On va parler de plein de choses, de l'actualité sportive locale, on aura un invité d'honneur. Mais d'abord, je vais vous présenter autour de la table nos invités, nos chroniqueurs. Nicolas d'abord.
Bonjour.
Et Olivier.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien.
Ça va et toi ?
Oui, ça va bien. Nicolas, ça va après cette nouvelle défaite de Nantes ce week-end, 1-0 contre Lens ?
On rigole pas, Olivier, merci. On reste sérieux dans cette émission. Nouvelle défaite, effectivement, contre Lens, 1-0, après une première mi-temps plutôt bien dominée, avec un gros temps fort vers la fin, une grosse occasion arrêtée par Brice Samba que Nicolas Palois peut pas reprendre. Et puis après, ça a été le néant pour moi en deuxième mi-temps, où mentalement, on a lâché après le but de Pereira da Costa. Et puis là, Gourvenec, ça commence à devenir urgent. Il fait ce qu'il peut, il essaie de relancer les jeunes. Franquita avait dit dans son interview de présentation qu'il était là pour se maintenir sereinement.
C'est tout sauf serein depuis tout à l'heure, depuis le début.
On est parti pour pas être serein du tout, et on a un calendrier qui va être compliqué. On va à Toulouse la semaine prochaine, et on reçoit Paris après par la suite, et on va à Lorient et on reçoit Metz. Donc
concurrent direct.
Il y a quasi 9 points sur 12 à prendre si on veut se sauver au FC Nantes actuellement, et j'ai un peu peur. J'ai un peu peur sur la suite. Malgré tout, voilà, Gourvenec essaye de relancer un jeune qu'on attend tous, Nathan Zézé, qui était titulaire depuis sur le deuxième match. On va attendre le retour de Moses Simon du Nigeria.
Ils sont en demi-finale pour l'instant.
Donc voilà. Et Mohamed et puis Castelletto sont revenus, ça n'a pas suffi. Et puis il y a Benny Traoré qui est la nouvelle recrue, qui a pris trois matchs de suspension, donc il va revenir. Puis il y a l'effet d'arbitrage, il y a tout ça en fait qui rentre en jeu actuellement, que ce soit de mon côté ou pas. Mais quand on n'est pas bien, ça se sent.
Nantes qui était 11e au moment de l'éviction de Pierre Aristou et Olivier.
Oui, c'est un petit peu dommage pour Nantes, parce que ça fait plusieurs saisons où ils sont dans le rouge, on va dire ça comme ça. Et je comprends pas trop la politique du club pour essayer d'enrayer la machine et d'aller vers le haut, quoi. C'est dommage, je crois qu'ils avaient fait un bon début de saison. Donc on pensait que voilà, ça allait se dérouler tout seul. Mais puis là, c'est désillusion en désillusion. On les perd un peu de vue. Mais j'espère de tout cœur qu'ils vont... Parce que là, ils ont effectivement trois matchs importants qui vont arriver. Qu'il va falloir faire des bons résultats pour ces trois matchs pour essayer de se sauver le plus tôt possible dans la saison, pour pas jouer avec la peur au ventre comme l'année dernière jusqu'au dernier match. Donc je souhaite plein de bonnes choses pour le FC Nantes.
Olivier, de ton côté, ton événement sportif qui t'a marqué ces derniers jours ?
Eh bien, la triste défaite d'équipe de France du rugby, ça a été un peu la grosse surprise. On peut s'apercevoir que quand Antoine Dupont n'est pas là, ça fait un grand vide quand même, l'équipe de France. J'espère qu'ils vont se rattraper sur les autres matchs. Bon, c'est vrai que l'Irlande, c'est en ce moment un peu notre bête noire, un petit peu.
Défaite 17-38 face à l'Irlande en ouverture du tournoi destination.
Grosse défaite. J'espère qu'ils vont vite se rattraper, parce qu'Antoine Dupont lui prépare le rugby à 7 aux Jeux Olympiques. C'est pour ça qu'il a fait abstraction du tournoi destination. Donc j'espère que ça va réveiller un petit peu les esprits de pouvoir se remettre dans la marche en avant. Surtout que les clubs en Coupe d'Europe marchent très bien, que ce soit le Stade Toulousain, le Stade Rocher marchent très bien en Coupe d'Europe. Donc j'espère que c'était juste un match à oublier, et puis qu'on va reprendre des couleurs les prochaines fois.
Alors deux événements moroses du coup, mais rassurez-vous, ça va être sympa l'émission, sinon elle va être très cool avec, pour parler positif, Arnaud Boissière qui va être notre invité dans quelques instants, skipper, la Micaline du Vendée Globe. Il a déjà terminé 4 fois l'épreuve, il va tenter de le faire une 5e fois. On parlera foot, après avoir eu Charles Devineau il y a quelques semaines dans l'émission, on a eu Aurélien Joubert, l'entraîneur de National 3 de Fontenay, il affrontait justement Charles Devineau et le club de la Châtaigneraie. On fera le point sur la saison du Vendée Fontenay Foot, avec également un invité, Sony Bourri, qui a été invité de Théo Estan de Vendez-nous le foot, et puis interview également de Steve Berger, entraîneur de l'équipe de hand de Pouzauges. Enfin, on terminera l'émission avec Olivier qui viendra nous annoncer une bonne nouvelle sport mécanique. Voilà, vous avez le programme du Sud Vendée Sport.
Sud Vendée Sport, l'invité.
Bonjour Arnaud Boissière.
Bonjour.
Vous êtes skipper à la Micaline pour le Vendée Globe. Vous avez déjà terminé 4 fois le Vendée Globe, et donc dans 9 mois, c'est un nouveau départ qui s'annonce pour vous. À l'heure actuelle, à 9 mois donc du départ, dans quel état d'esprit vous êtes ?
Mais je suis super excité, parce que pour l'instant, le bateau est en chantier, puisque c'est chantier hivernal avant la grosse saison. Et ça fait des mois, des années qu'on pense à ce Vendée Globe-là. Là, on sait que c'est la dernière ligne droite, on va dire technique, parce que faut se préparer d'abord le bateau pour le Vendée Globe. Donc voilà, je réalise effectivement aussi au quotidien le grand privilège que j'ai de pouvoir m'aligner sur une cinquième campagne du Vendée Globe.
Concrètement, là, la préparation, on est de l'ordre assez technique encore sur le bateau. Il y a quelques derniers détails à régler.
Alors là, aujourd'hui, il y a beaucoup de détails à régler. Ça, c'est moins qu'on puisse dire. C'est bateau, c'est un gros puzzle qu'on démonte à l'issue du retour à la base, à course retour l'hiver dernier, là, c'est fin décembre. Et là, on est en phase de remontage du puzzle. Donc, chaque pièce est expertisée. Là, en ce moment, on expertise le mât et la quille et les autres triggers et les foils. C'est-à-dire qu'on expertise, on fait des tests non destructifs des matériaux. Sûr que ben, tout est en règle. C'est des tests obligatoires aussi pour prendre le départ du Vendée Globe. Donc ça, c'est pas des évolutions, mais voilà, c'est des trucs obligatoires. Parmi les évolutions qu'on fait, on modifie la casquette pour plus de protection, justement, vu du Vendée Globe. Et également, on modifie également le profil des foils. Bon, on agrandit un petit peu les foils. Donc ça, c'est vraiment le... C'est pour la performance, Et puis au quotidien, ben on essaie de faire ceinture et bretelle en vue du Vendée Globe. Il y a beaucoup de choses qu'on a pas mal anticipées depuis septembre dernier. La commande des voiles, la commande de batteries. Ces batteries qui sont refitées à Nantes. C'est-à-dire ces batteries qu'on avait déjà à bord et on avait anticipé pour notre parc de batteries qui est arrivé en fin de vie. Il a fallu changer des cartes mères, changer des pièces électroniques, des batteries. Plutôt que de les changer, qui coûtent plus cher et aussi ça fait mieux pour se rader dans la glace, être un peu plus vert, le fait de pouvoir reconditionner les batteries, et puis on augmente le parc de batteries. Donc voilà, tout ça, plus des petits imprévus du quotidien qui est normal dans un projet de prototype. Donc là, on est en phase de remontage, mais on court après les pièces à droite à gauche. Mais bon, ça se passe bien.
Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un bateau qui a du vécu, puisque c'est un bateau déjà qui a terminé deuxième du Vendée Globe en 2012 avec Armel Lecléache, qui a terminé troisième du Vendée Globe en 2016 avec Jérémy Bayou. Voilà, c'est un bateau qui a quasiment 15 ans.
Ouais, c'est ça. C'est que c'est un bateau qui est de 2010, hein, mine de rien, qui a eu beaucoup de vie, qui a eu beaucoup d'histoires humaines très fortes aussi. C'est aussi l'ancien bateau de Sam. Malheureusement, elle n'a pas pu faire le Vendée Globe complètement puisqu'elle s'est arrêtée, mais elle a quand même continué.
C'est Samantha Davis en 2021.
Ouais, Sam Davis, pardon. Ouais. Moi, j'appelle Sam parce que voilà, c'est commun. Mais voilà, ouais, donc c'est une histoire qui est très forte avec ce bateau-là. Moi, j'ai eu la chance à faire l'Atlantique sur ce bateau-là avant qu'il faut couler la Mincaline pour voilà, commencer à me familiariser avec le bateau. Et moi, je suis attaché aussi aux histoires des bateaux, aux histoires sportives avec Armel et Jérémy, c'est sûr, avec Sam aussi, ce qui a fait très bon résultat. Et j'ai envie de poursuivre cette histoire forte aux couleurs d'Amicaline, mais aussi voilà, pour marquer mon cinquième Vendée Globe et le faire de plus belle manière possible. Voilà, c'est pour ça qu'on est tous extrêmement motivés. Et comme je disais tout à l'heure, on est excités parce qu'un Vendée Globe, c'est tous les 4 ans et il ne faut pas le rater.
Alors d'autant plus que vous avez une histoire particulière avec le Vendée Globe. Vous avez terminé 7e en 2009, 8e en 2013, 10e en 2017, 15e en 2021, mais avec une particularité d'être le seul skipper à avoir terminé le Vendée Globe 4 fois à la suite. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est le 5 à la suite?
Oui, non, mais l'objectif, oui, c'est le 5 à la suite. L'objectif aussi, c'est inverser la tendance. Comme vous disiez, j'ai fait 7, 8, 10, 15. Ben, maintenant, il faut inverser la tendance, faire mieux que 15. Ça reste un objectif extrêmement ambitieux parce que il y a quand même 12 ou 13 bateaux neufs. Il y a des bateaux qui sont extrêmement performants, génération 2016 qui ont été modifiés. Je pense notamment à Damien Seguin qui a sacré marin, mais aussi qui a modifié complètement le bateau. Donc voilà, donc c'est un objectif extrêmement ambitieux, mais j'essaie de me focaliser, moi et l'équipe, là, sur la préparation, notre préparation à nous, notre préparation de notre bateau. Et puis voilà, l'objectif principal forcément c'est finir, mais il faut le finir bien, il faut le finir pour faire plaisir aussi. Hein. Moi si je fais la course large, c'est parce que ça m'excite et c'est une passion avant tout. Et voilà, donc c'est l'objectif 1, c'est le finir, mais le finir bien, ça sera une priorité quasiment équivalente à la première. Donc voilà, on me dit, j'en ai fini 4, un cinquième c'est rien, c'est pas rien faire un tour du monde, c'est pas rien naviguer sur nos bateaux là. On a vu, il y a des blessés, il y a eu des blessés au retour à la base. On se blesse facilement le bateau, ils sont très puissants. Ils sont très aériens avec les grands foils, donc j'accorde aussi beaucoup d'importance au petit confort du bord. Je vais sûrement avoir un casque de rugbyman à bord en plus du casque que j'ai. Donc voilà, il faut faire gaffe à tout.
Alors justement, avec un bateau comme ça un peu plus ancien, vous parlez quand même un petit peu d'objectifs, de résultats. Comment on fait pour rivaliser face à ces bateaux plus récents, ultramodernes ?
Alors c'est pas évident, c'est clair, de rivaliser les tout nouveaux bateaux sur le papier, ça marche pas. Enfin, ça marche très fort, ça marche pas d'essayer de rivaliser avec eux. Moi, j'essaie de plus penser à la durée. Pour mon bateau comme pour moi d'ailleurs, moi je suis plus performant dans la durée. Je suis performant sur un tour du monde que sur une transat. Pourquoi ? Parce que je sais pas, je me découvre aussi. Il y a une navigation, une manière de naviguer, pardon, dans les mers du Sud qui est différente que naviguer dans l'Atlantique. Les conditions sont plus dures et il y a un mélange de gestion de matériel, de pugnacité à travers la performance que j'arrive à trouver dans ces moments-là. Donc je compte beaucoup là-dessus, moi, à titre personnel, d'être bon dans ces mers du Sud-là. En 2012, j'avais fait le troisième temps des mers du Sud en faisant le huitième en résultat final. Donc voilà, donc j'essaie de me dire que l'Atlantique, le début du parcours va être dur pour la performance, parce que forcément, dans des conditions plus médiums, il y a une bonne partie de la flotte qui ira plus vite, mais j'ai appris à être patient avec l'âge, avec l'expérience aussi. Donc voilà, et puis je sais aussi que la route est extrêmement longue. Là, on voit, il y a une course autour du monde en ce moment en trimaran. Il y en a qui ont fait des escales et tout ça, donc il faut être prudent, patient, mais il faut saisir l'opportunité d'être bien. Donc voilà, c'est tout ce panachage de mélange d'informations, mélange de sentiments qu'il y aura à bord qu'il faut que j'arrive à maîtriser, mais voilà, je suis assez confiant en tout cas.
C'est l'attelage, le Vendée Globe aussi aujourd'hui, entre la solidité d'un bateau et la performance. On sait que certains bateaux ont tendance à être aussi peut-être trop fragiles, ce qui fait qu'il faut savoir aussi gérer sa monture.
Oui, il faut savoir gérer sa monture. Après, le problème, c'est qu'en mer, il peut y avoir l'improbabilité. On peut taper des ovnis, on peut n'importe quoi. Donc, il faut se charger aussi d'humilité, mais se charger aussi de précautions en avant, en amont. Donc, c'est ça qu'on fait beaucoup de contrôles. On fait plus de contrôles qu'il est obligé sur nos bateaux. Nous, on en fait beaucoup plus de contrôles pour être vigilant, surtout après sur l'eau, il arrivera ce qu'il arrivera. Mais en tout cas, ouais, c'est ce panachage qu'il faut arriver à trouver. Et voilà. Jusqu'à maintenant, ça m'a souri. J'ai réussi à finir mes 4 Vendée Globe, mais je suis extrêmement prudent parce que de pas me mettre dans cet objectif de dire c'est facile, je vais arriver, jusqu'à maintenant, je suis arrivé. Et c'est aussi le sport de haut niveau, c'est se remettre en question en permanence pour pouvoir être bon le jour de la compétition.
Quand vous avez pris le départ de votre premier Vendée Globe en 2008, il y avait 30 bateaux sur la ligne de départ. Cette année, il devrait y en avoir 40. C'est une épreuve aussi qui a beaucoup évolué en 15-16 ans depuis votre premier départ.
Ouais, c'est assez impressionnant. Déjà, 30 bateaux au départ en 2008, c'était improbable. Aujourd'hui, on n'est pas tout à fait la même configuration qu'en 2008. Les bateaux neufs qui sortaient en 2008 avaient du mal à être éprouvés, à être efficaces. Aujourd'hui, les bateaux neufs, ils sortent du chantier et tout de suite, les équipes et les compétiteurs, ils sont performants. C'est ça aussi le sport qui a évolué, notre sport qui a évolué. Aujourd'hui, les architectes ont évolué, les équipes ont évolué. Et je pense notamment à Arkap après, qui gagne des courses l'année où le bateau a été construit. Donc ça évoluait. Aujourd'hui, il y a 10 bateaux de plus qu'en 2008. En 2008, ceci dit, j'ai fait 7e, alors que sur le papier, je pouvais pas faire mieux que 15, 16 ou 17e. Donc soyons prudents avec ça, mais en tout cas, ça me donne aussi ce caractère un peu optimiste de mon quotidien pour me dire qu'il n'y a pas de raison que j'arrive pas à faire mieux que 15 au prochain Vendée Globe. J'arrive à bien le finir, donc voilà. Mais tout a évolué, les équipes ont évolué. À l'époque, il y avait peut-être une équipe ou deux qui sortaient du lot en budget et tout ça. Aujourd'hui, il y a peut-être 15 équipes qui sont extrêmement riches, qui sont des équipes de 20-25 personnes. Quand nous, on est plutôt 6, ce qui est déjà beaucoup, 6, hein, ceci dit. Mais voilà, donc les bateaux sont plus exigeants, ils sont plus beaux aussi, ils sont plus jolis, hein, ils volent et tout. Donc maintenant, on va vivre avec ça et donnez-moi une faire bien.
Bon, pour terminer, Arnaud, donc qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2024 et ce Vendée Globe 2024?
Moi, ce que je dis beaucoup, c'est que de me faire plaisir, je navigue avec un formidable bateau, avec un super projet, une super équipe, tous les lundis matin, on fait une réunion technique et il y a une formule qui nous plaît beaucoup, nous, on fait les choses sérieusement sans se prendre au sérieux et on continue comme ça, et si on fait ça pour le Vendée Globe, ça marchera. Donc on vit ce projet-là avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de passion et d'intensité, donc de continuer sur cette lignée-là.
Merci beaucoup. Arnaud Boissier, on vous souhaite bon courage.
Ben, merci, puis à très vite sur les océans.
Merci, au revoir.
Sud Vendée Sport, l'actu de la semaine.
Bonjour Aurélien Joubert.
Bonjour.
Vous êtes entraîneur de l'équipe de National 3 de Fontenay-le-Comte. Vous restez dans cette poule de National 3 sur un match nul dans le derby face à la Châtaigneraie 0-0. C'était peut-être la frustration de ne pas avoir pris 3 points qui prédomine après avoir joué pendant 75 minutes à 11 contre 10.
Oui, on peut l'analyser comme tel. C'est vrai que c'est toujours frustrant quand on a une supériorité numérique pendant autant de temps que ça, mais il faut pas rester uniquement là-dessus. Les conditions de jeu étaient difficiles. C'est vrai que par rapport à une équipe qui, du coup, s'est un petit peu recroquevillée et a attendu le contre. Donc nous, on a de la déception parce qu'on a beaucoup d'opportunités pour pouvoir marquer. Mais le gardien était relativement bon, comme souvent. Pour pas dire héroïque, et voilà, on a fait 2 barres, on a quand même 6 ou 7 grosses occasions qu'on met pas au fond, donc la déception elle est plutôt là.
C'est le genre de match aussi qui peut vous permettre de basculer dans les 3-4 premières positions du classement et vous y arrivez pas encore?
On n'y arrive pas encore, mais bon, on est sur 14 points sur 18, sur les 6 derniers matchs, on n'a pas perdu, on n'a pas pris un seul but depuis 5 rencontres, donc on peut pas dire que ce qu'on a fait c'est pas bien. Au contraire, on est plutôt sur une très bonne dynamique. Après les places de classement, on verra ça à la fin de saison. Pour l'instant, c'est vrai que oui, avec 2 points supplémentaires, on pouvait glaner. Alors même pas une place, je crois pas, mais on pouvait se rapprocher du haut de tableau. Mais pour l'instant, on est là où on doit être, malgré effectivement le fait que sur ce match contre la Châtaigneraie, les 3 points auraient été les bienvenus.
Et vous arrivez aussi finalement à exister, à proposer du jeu dans une poule pas évidente entre les équipes du haut de tableau comme la réserve de Nantes, le Poiré qui pour l'instant joue la montée, et des équipes dans le bas de tableau qui jouent leur survie dans cette poule. On sait qu'il risque d'y avoir 3 ou 4 descentes, c'est difficile de se retrouver finalement entre ces deux eaux.
Oui, c'est à nous de faire en sorte de pas se retrouver dans le bas. On est pour l'instant dans le milieu. La saison, elle est qu'à mi-saison. On a encore plein de matchs à jouer. Et effectivement, les matchs contre les derniers sont jamais les plus simples. On sait que une équipe comme la Châtaigneraie jouait aussi pour éviter de rester dans cette zone-là après avoir eu des bons résultats au mois de novembre, début décembre, je crois. Donc c'est pas des matchs faciles. Là en plus, c'est un derby, c'est une certaine rivalité sur le territoire. Donc on sait qu'il y a un peu de tension. Le fait qu'il soit aussi passé à 10 fait que c'est un match qui devient pas si simple que ça. Donc on l'a pas mal négocié, mais il faut continuer sur la voie qui est la nôtre.
Fontenay est un club maintenant plutôt installé dans cette poule de National 3. Sur le court, moyen terme, quels pourraient être les objectifs du club? Rester dans le haut du tableau justement de National 3 et pourquoi pas, si jamais un jour l'opportunité se présente, de jouer la montée?
Oui, bien sûr, c'est dans l'ordre des choses. Il y a plus de 30 ans d'années d'affilée au niveau national, que ça soit National 2, donc ex-CFA, ou National 3. On est, sur une pente plutôt ascendante, puisqu'il y a 2 ans, il a fallu se maintenir on va dire dans les derniers instants, on a fini 9e, l'année dernière on a fini 7e, donc l'objectif cette année c'est de faire mieux si possible.
Et de s'inscrire dans un projet assez global de club avec des jeunes, on rappelle hein, Fontenay, il y a une équipe de Régional 2, une équipe de Régional 3 derrière en réserve, et avec un projet axé sur des équipes jeunes, hein. Les équipes réserves sont très jeunes.
Oui, c'est très jeune parce que le club bénéficie donc de niveau sur le pôle formation en R1 ou en R2 de U16 à U19 et que bah, sortie de cette formation-là, ça leur permet aussi de jouer à un bon niveau régional en senior pour se préparer aux joutes éventuellement du niveau national pour ceux qui ont les moyens de s'y inscrire.
Et c'est par là aussi peut-être que passe l'équilibre de cette équipe première entre les joueurs du cru et puis des joueurs que vous faites venir de l'extérieur.
Exactement, exactement. Et puis ce week-end, il y avait quand même pas mal de joueurs issus du secteur, pour pas dire du Sud-Vendée, dans les deux équipes d'ailleurs. Donc ça montre qu'il y a un potentiel, il y a un réservoir et que bah, ces joueurs-là, il faut surtout pas les oublier. Et bien au contraire, et c'est souvent eux qui nous ont fait gagner des points voilà, dans l'idée de vouloir mouiller le maillot et représenter un petit peu aussi le Sud-Vendée.
Bon, Aurélien Joubert, donc, pour terminer, vous êtes sixième, on est à la mi-saison. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter justement pour cette fin de saison de National 3?
Eh ben, de poursuivre sur la voie qui est la nôtre, c'est-à-dire une voie vers un maintien le plus rapidement possible. Voilà, pour asseoir le club une nouvelle fois au niveau national la saison prochaine, et puis être ambitieux avec bah, des gros matchs à jouer comme ce week-end où on va jouer un match en retard contre Saint-Philbert, qui est plutôt un prétendant à la montée avec le nombre de points qu'ils ont aujourd'hui, et puis derrière voilà, avoir des matchs de haut de tableau si possible, et se donner pourquoi pas des chances d'exister sur le podium ou dans un top 5, voilà, ça serait ce qu'on peut espérer de mieux pour les garçons, et de prendre du plaisir à jouer aussi, parce que je pense qu'au-delà du résultat, il y a aussi la manière de jouer et de prendre du plaisir tous ensemble.
Merci Aurélien Joubert, on va vous souhaiter une bonne deuxième partie de saison.
Merci beaucoup.
Et on poursuit cette page consacrée au Vendée Fontenay Foot dans cette émission. On va être avec Sony Bourri, éducateur. Il est responsable technique jeune. Eh bien, Stan et Théo de Vendez-nous le Foot l'ont rencontré. Écoutez les confidences donc de Sony Bourri, responsable technique jeune du côté du Vendée Fontenay Foot.
Bonjour à tous, vous êtes bien avec l'équipe VNF pour l'instant VNF. Aujourd'hui, on a Fontenay-le-Comte avec Sony Bourri. Bonjour Sony.
Salut les gars.
Alors tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter?
Alors je m'appelle Sony Bourri, j'ai 28 ans. Je suis éducateur depuis maintenant 10 ans. J'ai passé le BMF à 20 ans et le BEF à 22 ans. Et du coup là, je suis responsable technique jeune au VFF, en charge des 17 R1 aussi. Et je suis formateur à la Ligue et responsable de la section d'animation au lycée Bel Air à Fontenay-le-Comte.
Alors pour certains éducateurs, on sait que le football c'est plutôt une vocation, et pour d'autres c'est vraiment un concours de circonstances. Pour toi, quelles ont été tes motivations justement pour exercer ce métier?
Alors moi, c'était pas forcément une vocation au départ. Tout au départ, du coup, j'étais surtout joueur, je jouais au foot. Et pour dépanner mon club où j'étais quand j'étais petit, j'ai pris les U6-U7 pendant une année. J'ai passé mon premier module où j'ai rencontré des personnes top, et je me suis pris au jeu. Et du coup, la deuxième année, j'ai fait un emploi aidé au club de Beauvoir-sur-Mer. Et je suis resté 2 ans là-bas, j'ai passé mon BMF, et au fur et à mesure, voilà, je me suis pris au truc. Et puis aujourd'hui, j'ai la chance d'en vivre.
Alors, on a tous des passages marquants dans notre parcours. Toi, personnellement, est-ce que tu as eu des passages qui t'ont particulièrement marqué dans ton parcours d'éducateur et qui t'ont permis d'évoluer dans l'approche de ton métier?
Bon, il y en a beaucoup. Je pense que de chaque expérience, pardon, on apprend beaucoup de choses. Donc, toutes les expériences ont été bénéfiques. D'autres plus que, voilà, enfin, il y a eu plein de choses. Les bonnes choses comme les moins bonnes, on apprend de tout. S'il y avait une expérience à retenir, je pense que je m'en suis pas rendu compte au départ, mais c'est il y a 2 saisons où au mois de novembre, du coup, j'ai repris la R1 de Fontenay, la réserve senior, en tant qu'entraîneur-joueur. Et là, du coup, bah, je me suis un peu mis en danger. J'ai appris plein de choses. Et avec du recul, c'est une bonne expérience qui m'a bien fait évoluer dans mon métier d'éducateur.
Alors, pour toi, quelles sont les qualités indispensables pour un bon éducateur? Et en tant que responsable technique ici à Fontenay, qu'est-ce que t'attends des éducateurs et des éducatrices qui t'accompagnent?
Les qualités indispensables, déjà, être ponctuel. On veut que nos joueurs soient ponctuels et rigoureux. Donc, nous, si on ne l'est pas, forcément, ça colle pas. Donc, la première chose, c'est la ponctualité, mais aussi la bienveillance. Je pars du principe où pour que nos joueurs soient performants, faut qu'on soit bienveillant avec eux, pardon, qu'ils se sentent bien, qu'ils soient à l'aise dans leur tête et dans leurs chaussures. Sinon, ils ne seront pas performants. Donc, je dirais bienveillance, rigueur et ponctualité, même s'il y en a plein d'autres. Mais c'est les premières qui me viennent en tête. Après, par rapport aux éducateurs, ce que je leur demande, bah forcément, voilà, d'être bienveillant, rigoureux, ponctuel, et puis de mettre en place ce qu'on a défini au club en termes d'intention de jeu, en termes de cadre, en termes d'organisation, etc. etc. Voilà.
Alors, parlons plus généralement du football vendéen. Quel regard tu portes sur l'évolution du football dans notre département? Et selon toi, quels sont les axes d'amélioration qui permettraient de donner une nouvelle dimension à ce football dans notre département?
Moi, je trouve déjà que sur les dernières années, j'ai vu un vrai changement, c'est par rapport à l'évolution des clubs, dans le sens où tous les clubs sont structurés, les plus gros clubs comme les plus petits, les écoles de foot, il y a des salariés dans beaucoup de clubs, les infrastructures aussi, on a de la chance par rapport à d'autres régions d'avoir des bonnes infrastructures. Je pense qu'on est vraiment bien doté par rapport à ça. Et comme je le disais juste avant, du coup, les clubs se développent, les compétences en termes d'encadrement de chaque club se développe, et aujourd'hui on a de très bonnes écoles de foot, donc ça je pense que c'est une très bonne chose, et si on a de bonnes écoles de foot, on aura forcément du foot à 11 de qualité, des joueurs derrière de qualité, donc ça c'est plutôt bien. Après, je pense que si un jour on veut vraiment que le football vendéen se développe, il faudra avoir une équipe professionnelle en Vendée, ce qui serait vraiment top. Aujourd'hui, on n'a pas été loin à des moments, mais ça n'a pas encore été le cas, et puis voilà, en tout cas je souhaite un jour qu'on ait une équipe pro en Vendée, ça serait le top, voilà.
Alors, il y a plein de manières de pouvoir jouer au football, de pouvoir développer ses idées. Et est-ce qu'il y a une philosophie particulière à laquelle toi, tu es plus attaché plutôt qu'une autre?
Je suis attaché à pas mal de choses, mais moi, ce qui m'importe, tout d'abord, je pense que de bien défendre. Si on n'est pas capable de bien défendre, ça reste compliqué de jouer. Dans un premier temps, de bien défendre, de défendre ensemble, que tous les joueurs soient concernés. Et peut-être une des dimensions primordiales, c'est vraiment l'idée de changer de statut. Surtout mentalement, quand on a le ballon, quand on l'a pas, en termes de transition. Et c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Après, la dernière chose, je pense que on a tendance parfois à jouer pour jouer. Mais moi, j'aime bien qu'on joue avec l'intention d'aller marquer. Même quand on prépare au départ, etc., qu'on ait toujours l'intention de marquer. La finalité du foot, ça reste de marquer. Donc, dans nos différentes intentions, ça doit être l'objectif d'aller marquer. Et ça, c'est un truc aussi que je trouve très important.
Alors, tu viens de l'aborder, les transitions aujourd'hui occupent une place très importante dans le football qu'on connaît. Quelle place elles occupent dans ton projet de jeu, donc que ce soit les transitions offensives-défensives ou défensives-offensives?
Aujourd'hui, je pense que c'est primordial. Tout dépend un petit peu de ça. Entre guillemets, quand on vient de récupérer, ben, l'adversaire est désorganisé. Donc, l'objectif prioritaire à ce moment-là, c'est forcément d'aller marquer. Si c'est pas possible, ben, on repart et on continue de préparer. Mais en tout cas, la transition, elle a forcément ça apporte forcément des opportunités qui sont intéressantes. Et après, défensivement, ben, encore une fois, restructurer le plus vite possible pour pas être en danger. Parce que je pense aussi que, malheureusement, c'est quand on a le ballon qu'on est le plus en danger. Quand on est ouvert, qu'on essaye d'avoir des opportunités et de créer des choses, c'est là qu'on est en danger. Donc, faut toujours penser à ce qui peut se passer ensuite. Donc, la transition, elle est forcément primordiale et c'est un axe prioritaire de mon projet de jeu.
Alors, on sait que la préparation athlétique, ça occupe une place aussi importante dans le développement d'une équipe au quotidien. Sous quelle forme, toi, tu intègres cette planification, cette préparation athlétique dans ta planification d'entraînement? Est-ce qu'il y a des outils particuliers que tu utilises pour justement quantifier la charge de travail?
Alors, nous, du coup, il faut savoir qu'on a des GPS au club, mais qui sont utilisés pour l'instant seulement sur les équipes seniors. Sur les équipes jeunes, on ne les utilise pas forcément. Après, moi, j'aime bien travailler au ressenti, échanger avec les joueurs par rapport à savoir comment ils se sentent. Bien sûr, individualiser, parfois avec aussi des outils qui nous permettent d'évaluer un petit peu tout ça. Et parfois, ça a pu m'arriver aussi de, par exemple, tout simplement passer ma montre à un joueur, ma montre connectée, et évaluer de cette façon-là. Après, j'aime bien surtout être au ressenti, voir un petit peu comment les joueurs travaillent, et puis avoir un échange avec eux, sous forme de confiance forcément, mais avoir un bon échange avec mes joueurs.
Alors, il faut rappeler aussi que tu es joueur au sein du Vendée Fontenay Foot. Tu es milieu de terrain. Toi, qu'attends-tu personnellement de tes milieux de terrain lorsque tu es éducateur?
J'attends beaucoup de choses. Je pense que je suis encore plus exigeant avec eux qu'avec les autres joueurs. La première chose, je pense, quand on est milieu de terrain, c'est d'abord scanner l'environnement à longueur de temps, savoir où sont les différents joueurs autour de nous, savoir aussi les qualités de l'adversaire forcément, mais surtout voilà, être en perpétuel mouvement, être tout le temps connecté au jeu et être disponible pour d'abord être touchable. Et ensuite, quand on donne un ballon, c'est souvent ce que je leur dis, on ne donne pas un ballon bêtement, on donne un ballon avec du sens et imaginez un peu ce que va pouvoir faire le receveur ensuite. Donc voililà, j'aime bien avoir des milieux de terrain créatifs, mais surtout intellectuellement qui réfléchissent et qui ont une vraie réflexion par rapport au jeu. Voilà.
Donc justement, pour faire le lien avec cet aspect de la prise d'information, donc récemment, il y a Joshua Kimmich qui déclarait à l'équipe les propos suivants. Donc je cite, « Il me faut savoir précisément où sont mes coéquipiers et les adversaires. Ce n'est qu'après que je peux essayer de bien me servir de mes pieds, parce que je sais alors vers où je dois me tourner, quel type de première touche je dois effectuer, quel genre de passe je dois jouer. » Fin de citation. Qu'est-ce que ces propos-là, ils t'évoquent par rapport à ce domaine de la prise d'information?
Comme je disais juste avant, quand on joue... Quand on joue sur le terrain, on est forcément déjà il y a la pression adverse qui est fortement en place et il y a aussi nous ce qu'on veut proposer. Mais si on n'est pas en capacité de voir tout ce qui se passe autour, forcément on fera pas forcément les bons choix. Donc je pense que la prise d'information elle est primordiale, l'orientation est primordiale aussi. Et puis après la qualité de la première touche pour enchaîner, mais aussi les déplacements des partenaires, etc. Moi c'est un truc sur lequel j'interviens beaucoup au club. On n'est pas dans l'idée de corriger le porteur de balle, mais plutôt l'environnement, pour qu'entre guillemets, le porteur de balle fasse ses choix. Parfois, il se trompe, c'est pas grave, mais au moins, il apprend de ses erreurs. Mais en tout cas, corriger l'environnement, ce qui se passe autour, pour qu'ensuite, le porteur de balle soit en position favorable pour trouver des solutions et encore une fois, imaginer le futur, ce qui va pouvoir se passer après, tout simplement.
Alors, on souhaitait aussi aborder ton beau parcours et ta belle épopée avec Esnay. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça? Quel secret tu peux nous donner par rapport à ta réussite
Du coup, à Esnay, ça s'est plutôt bien placé. En fait, avec Fontenay, il n'y a pas eu de suite l'année précédente. J'ai rencontré Jérôme Boire, que j'apprécie beaucoup, pour prendre les U18. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le coach qui est arrivé là-bas ensuite, c'était Philippe Guillotot, qui était ici avec Fontenay, qui était coach de la N3 à l'époque, que je connaissais aussi. Donc du coup, je suis parti pendant une saison là-bas. Ça s'est plutôt bien passé. En fait, mon choix de revenir ici a plutôt été sur le fait que professionnel, on va dire. C'était vraiment dans l'idée d'être salarié ici, de mettre des choses en place ici avec une partie de la direction qui m'a fait revenir. Et puis revenir à Fontenay, au club où j'ai passé de belles années et que je connaissais bien les personnes avec qui je m'entendais très bien. Voilà.
Donc, on l'a vu dans ton parcours, tu as eu l'occasion d'aller dans différents clubs sur différents secteurs du département. Quelles sont les clés pour toi qui conduiraient à une bonne adaptation pour un éducateur dans un secteur quand on arrive juste, qu'on ne connaît pas le secteur?
La première chose, je pense, c'est que des fois, quand on est éducateur, on veut tout révolutionner. Je pense que la première chose, c'est que chaque club a une histoire, chaque club a un fonctionnement, et il faut être capable de s'adapter à ça. Je pense que l'éducateur, il est en permanence en adaptation, et on doit s'adapter à l'environnement, à la population aussi. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, et la première chose, je pense, c'est bien découvrir le secteur, apprendre à le connaître, et ensuite, on peut mettre des choses en place qui collent avec ce qui est demandé. On ne peut pas mettre les mêmes choses en place à Comquier, je sais que tu es là-bas, Théo, qu'à Fontenay ou qu'à Chaland, tous les clubs sont différents, avec des fonctionnements différents. Donc je pense qu'il faut respecter ça et faire évoluer avec la vie locale et le fonctionnement déjà mis en place.
Donc on le sait, l'éducateur joue un rôle important, notamment dans la mise en confiance de son joueur. Toi, est-ce que tu aurais des conseils pour amener tes joueurs individuellement vers la performance? Est-ce que tu aurais justement des petits conseils qui permettraient aux joueurs d'être à l'aise et de pouvoir performer par la suite sur le terrain?
La première chose, déjà, je pense que c'est dans notre discours en tant qu'éducateur. Si, entre guillemets, un joueur, dès qu'il rate quelque chose, on le pourrit, forcément, on va pas l'aider et il sera pas meilleur. L'idée, c'est plutôt d'accompagner, d'être bienveillant, d'expliquer tranquillement avec bienveillance. Après, bien sûr, des fois, faut aussi expliquer les choses comme elles le sont, mais en tout cas, toujours avec bienveillance. Et les joueurs ratent des choses, faut dédramatiser aussi ce qu'on rate. C'est pas du tout grave et problématique. Justement, quand on rate des choses, les fois d'après, on les refait pas. C'est pas en jouant à la PlayStation en tant qu'éducateur qu'on va aider nos joueurs et les faire évoluer. Bien au contraire. Donc voilà, c'est laisser une vraie liberté et puis ensuite corriger et trouver un fonctionnement tous ensemble qui permet aux joueurs de se sentir bien au sein du groupe et d'être à l'aise dans ses baskets tout simplement.
Donc tu nous as dit aussi que dans ton projet de jeu, tu étais aussi attaché à l'aspect défensif, donc savoir bien défendre au départ. Est-ce que tu as conçu des situations références que les joueurs vont pouvoir retrouver régulièrement et qui vont leur permettre de développer une certaine, des certains comportements références que tu vas retrouver et qui vont dire ok, mon équipe elle est bien à ce moment-là lors des matchs parce qu'on retrouve ces comportements-là.
Alors défensivement, déjà la première chose que je demande à mes joueurs, je définis pas d'hauteur de bloc, je laisse mes joueurs définir la hauteur par rapport à l'adversaire, par rapport à la situation, par rapport au temps du match, comment ils se sentent, c'est eux qui décident un petit peu entre eux. Moi, ce qui m'importe, c'est la distance qu'on a entre nous, qu'on soit très haut ou très bas, ou médian, peu importe. Ce qui est important, c'est d'avoir tout le temps la même distance entre nous. Déjà, ça permet d'être bien proche et de laisser peu de place à l'adversaire, et puis à la récupération, d'être tous connectés pour garder le ballon, tout simplement. Donc, je laisse une certaine autonomie. Après, parfois, forcément, je serais peut-être autrement, mais je pense que c'est aussi, encore une fois, en vivant des expériences qu'on apprend et qu'on développe ses compétences. Donc voilà, pour moi, la priorité, c'est vraiment d'être proche les uns des autres, et puis après, chacun dans sa zone, gagner ses duels, et dans ce cas-là, tout va bien normalement.
Alors, pour rester dans ton projet de jeu, les sorties de balles également sont un élément très important dans le football qu'on connaît. Quelle place accordes-tu à cet élément dans ton projet de jeu ?
Bah après, encore une fois, ça dépend de ce que propose l'adversaire. Si, entre guillemets, l'adversaire est très haut, bah forcément, il a de la place dans le dos, donc je demande à mes joueurs de jouer un petit peu plus long. Si l'adversaire vient pas nous chercher, bah plutôt de repartir court et de mettre du rythme. Mais encore une fois, tout ça dépend du jeu, et c'est pas l'éducateur qui définit tout ça, c'est aux joueurs d'avoir un ressenti et puis de jouer comme ils le sentent. L'idée, c'est pas de leur imposer des choses, bien au contraire. Ils sont sur le terrain, ils analysent ce qui se passe, et puis après ils font leur choix. Après, à l'entraînement, j'essaye de beaucoup les faire jouer sous pression, dans l'idée de jouer court, d'être un peu en difficulté, pour que le week-end on soit en capacité de le faire, et après, entre guillemets, bien sûr, varier le week-end et trouver de nouvelles stratégies par rapport à ce que nous propose l'adversaire et ce qu'on veut mettre en place.
Donc on sait que la communication, c'est un aspect important sur un terrain de football. Il y a un formateur à la Ligue qui m'avait dit une fois que chaque passe a un message, c'est-à-dire qu'à travers le dosage et le timing de la passe, il y a toujours un message. Qu'est-ce que tu penses justement de ce message-là, de cette communication un petit peu non-verbale, et comment on peut travailler ça à travers les séances?
Ouais, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je pense que, comme tu viens de le dire, la passe, c'est forcément un message. On ne donne pas un ballon bêtement. Par exemple, j'ai n'importe quoi, je suis dos au jeu, j'ai quelqu'un qui est derrière moi, que je suis serré, ben là on va pas lui donner un ballon très fort, on va lui donner un ballon plutôt doux pour attirer et rejouer par exemple et poser un problème à l'adversaire. J'ai un joueur qui a du temps, ben je lui donne plutôt forte pour lui donner encore plus de temps, etc., etc. Mais encore une fois, ça c'est une question de ressenti, et l'idée c'est que les joueurs soient en capacité d'avoir ce ressenti, encore une fois d'imaginer ce qui va se passer après et pas de donner un ballon bêtement. L'idée de donner un ballon, c'est de faire un cadeau à son partenaire pour garder le ballon. Et j'irai encore plus loin, quand je donne un ballon, c'est imaginer ce qui va se passer après, donc mettre mon partenaire dans les meilleures conditions pour qu'il puisse enchaîner derrière et forcément pas perdre le ballon. On ne perd pas le ballon collectivement, on le garde tous ensemble, tout simplement.
Pour revenir sur ton rôle au sein du Vendée Fontenay-Foot, est-ce que tu travailles en collaboration avec d'autres éducateurs ici, ou est-ce que tu travailles plus individuellement ici?
Non, nous l'idée c'est vraiment de travailler en collaboration. Déjà il y a Aurélien qui est sur la N3 avec qui on échange régulièrement, avec les coachs seniors j'échange aussi régulièrement. Et après au sein des jeunes, du coup moi je suis responsable technique jeune, je suis responsable formation et école de foot, et Mehdi Belbachir est responsable pré-formation. Donc du coup on essaie de vraiment travailler tous ensemble, et même si entre guillemets il y a des responsables qui sont en place, après on est vraiment dans l'échange. Il y a de nombreux éducateurs qui sont aussi alternants au club, d'autres qui ne le sont pas, mais en tout cas on passe du temps ensemble, on fait régulièrement des réunions techniques, on se croise tout le temps au vestiaire, on a un vestiaire éducateur où on essaye de tout se passer et échanger un petit peu. L'idée, c'est vraiment être dans l'échange, encore une fois, c'est ce que je dis souvent, la co-construction du projet. C'est pas juste une personne ou deux personnes qui définissent un projet, c'est tous ensemble qu'on crée des choses, qu'on met des choses en place, et on essaye de faire adhérer tout le monde pour qu'on avance et puis qu'on ait un vrai projet structuré. Voilà.
Donc si je reviens un petit peu sur le tempo et le timing au niveau du jeu, pour avoir échangé avec quelques éducateurs, on se faisait la réflexion du fait que on trouve qu'il y a énormément d'intensité sur les matchs et qu'il y a peu de capacité à faire varier le tempo au niveau du jeu, donc de plutôt ralentir au départ pour accélérer derrière, il y a peu de variation de rythme. Quel regard toi tu portes sur cette observation et cette analyse ?
Je pense que je suis assez d'accord, surtout sur les catégories, sur la formation, même sur la préformation aussi, où on est vraiment souvent, on récupère le ballon, on attaque directement, etc. On a du mal à prendre des temps. Je pense qu'il y a aussi une forme d'impatience. En début de match, parfois, on est en capacité justement à garder, à préparer. Mais dès que le temps passe un petit peu, qu'on a raté 2-3 occasions, ben forcément, on pousse. Et ça ouvre du coup des opportunités pour l'adversaire. Donc l'adversaire pousse aussi. Et on se retrouve vite dans des matchs où on n'a que de la transition. je suis d'accord, il faut réussir à prendre des temps. C'est ce que je demande régulièrement à mes joueurs. Mais encore une fois, prendre des temps avec du rythme, ça ne veut pas dire qu'on garde derrière, etc. C'est très bien, mais le faire avec du rythme pour faire courir l'adversaire, déséquilibrer, et à un moment donné, trouver la bonne opportunité, tout simplement. Mais oui, là, on a tendance parfois à vouloir marquer, et plus le temps passe, plus on veut marquer, donc plus on va vite vers l'avant, et au final on se retrouve avec des matchs un petit peu décousus. Donc non, l'idée c'est d'être en capacité de prendre son temps, de préparer, encore une fois avec du rythme, mais de pas tout faire, de pas jeter le ballon non plus, quoi.
Alors tu nous disais à l'instant que tes milieux de terrain, tu attendais beaucoup de choses d'eux. Est-ce que tu réalises un travail spécifique, notamment en termes de prise d'infos et d'orientation du corps? Puisqu'on sait que ça peut faire gagner un temps sur l'adversaire. Est-ce que toi, tu réalises un travail spécifique là-dessus avec eux?
Alors là, sur la formation, cette année, on a fait reprendre tout le monde en même temps, U16, 17, 18. Et chaque semaine, on avait un temps où on travaillait spécifiquement par groupe, les milieux de terrain d'un côté, les défenseurs d'un autre, les attaquants d'un autre. Donc oui, on essaye de le faire. Après, la prise d'info a fait partie de notre projet de jeu, donc forcément, on intervient là-dessus. Sous forme jouée, souvent, parce que forcément, prendre des infos sous forme arrêtée ou sous forme d'exercice sans opposition, ben, on prend des infos, mais il y a tellement de choses à prendre en compte que c'est plutôt compliqué. Donc la prise d'info, c'est plutôt sur des jeux réduits, sous des jeux sous pression, où on doit être en capacité de vite voir, vite se déplacer, des jeux même très très réduits, et le travailler de façon naturelle à l'intérieur du jeu. Forcément contextualisé par rapport au poste et aux besoins de chacun, mais on le travaille plutôt à travers le jeu.
Eh bien, on te remercie pour cette interview, et justement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le reste de la saison?
Bah, une bonne fin de saison avec les U17, puis une bonne fin de saison générale au club. Cette année, on passe le label. Du coup, on est en renouvellement label, ça nous prend pas mal de temps. On a aussi un nouveau projet qui se met en place, qui se met plutôt bien en place. Donc, continuer à développer tout ça. Et puis, faire progresser nos jeunes, avec des jeunes qui se sentent bien, en confiance. Et puis voilà, tout simplement. Après, les résultats suivront, ça ne m'inquiète pas. Donc,
Eh bien, on vous remercie tous, et puis on vous dit à très bientôt pour une nouvelle interview de l'Instant VNF sur les antennes de Dig Radio. À bientôt.
Merci Théo et Stan donc pour leur chronique à chaque fois dans le Sud Vendée Sport. Vendez-nous le foot, les résultats d'ailleurs du week-end, les résultats foot du week-end, National 2, National 3. Olivier, je te laisse la main.
Eh bien, National 2, poule B, Angoulême a fait match nul contre le premier Les Herbiers, 1-1. Angesco a été battu par Romorantin, 2-1. Blois a été battu par Libourne, 2-1. Bourges, Paris 13 ont fait match nul, 1-1. Saint-Privé, Saint-Hilaire, La Roche-Vendée Foot ont fait 0-0. Prissac a été battu par Bergerac, 2-0. Avoine-Chinon a fait match nul contre l'OFC Semur, 1-1. Au classement général, les Herbiers sont premiers avec 27 points. La Roche-Vendée Foot est troisième à 4 points, donc avec 23 points. En National 3, poule D, La Châtaigneraie, c'était le derby du jour. La Châtaigneraie et Fontenay ont fait match nul 0-0. Chalon-Sablé ont fait match nul 1-1. Château-Gontier a été battu par Laval 2 3-0. Le Poiré-Surville a fait match nul contre Saint-Philbert 0-0. Les Sables-d'Olonne a gagné 1-0 contre Chauray. Nantes 2 a battu Saint-Nazaire 2-1. Niort 2 a fait match nul avec Vertoux 1-1.
Merci Olivier. Alors Nicolas, on va revenir rapidement déjà sur la poule de National 2. Les Herbiers, toujours leader, ils viennent d'enchaîner un nouveau match nul. Ils conservent la tête, ça va être très serré, un petit peu comme l'année dernière finalement.
Exactement, ils ont loupé l'année dernière la montée en national. Ils sont sur une dynamique plutôt positive, avec des matchs nuls quand même qui reviennent de plus en plus. Est-ce que ça va suffire pour monter? On sait que La Roche VF aussi a des ambitions de monter. Le coach en a parlé la semaine dernière dans l'Ouest France en disant que la deuxième partie de saison, il voulait des recrues. Il a eu deux attaquants. Il souhaitait aller titiller le haut de tableau. Donc j'espère que ça ne va pas être préjudiciable pour nos deux clubs vendéens de se battre et qu'ils ne vont pas finir à la deuxième et troisième place.
Oui.
C'est ce qui peut arriver aussi. Mais voilà, les Herbiers sont premiers depuis un petit moment. Hein, donc voilà, il faut que ça continue sur leur bonne dynamique.
On va voir, en tout cas c'est très serré puisque les six premiers se tiennent en 4 points pour l'instant. Il y a des matchs en retard, donc on en saura plus un petit peu plus tard. Et puis Nicolas, pour revenir aussi sur la Nationale 3, c'est très serré. On parlait de Fontenay qui est dans le milieu du classement. Il y a La Châtaigneraie aussi, on avait eu Charles Devineau lors de la dernière émission. 11e avec 13 points, alors 11e sur 14. On sait qu'il y aura 3 descentes au minimum, peut-être 4. La lutte pour le maintien qui s'annonce terrible entre ces 5-6 équipes du bas de tableau.
Ouais, c'est pareil, mais là dans le bas de tableau, c'est des matchs coup près. Ça veut dire que dès qu'une équipe perd, bah, ça redescend assez vite. Il y a un creux qui s'est créé aussi avec les 6e et 7e places. Donc voilà, il faut que ces 5-6 équipes, bah, ça va batailler entre eux. Et puis bah, on va espérer que notre équipe du Sud-Vendée de la Châtaigneraie soit encore maintenue. Et puis que Fontenay, forcément, puisse grimper, comme vient de le dire Aurélien Joubert, sur le podium assez rapidement pour la suite et pour notre territoire aussi là-dessus.
Et puis on va faire les divisions dans le désordre. La Nationale, Nationale 1, pour dire aussi que Niort est allé s'imposer 4-0 du côté de Villefranche, doublé de Tormin, but de Elfège et but du Durivo, ce qui fait qu'au classement, Niort est deuxième avec 34 points, un point d'avance sur Martigues, 2 sur Villefranche. On rappelle que c'est seulement les deux premiers qui montent et que le Red Star, premier avec 40 points, a fait un petit trou. Les Chamois se repositionnent à la deuxième place. On avait eu Philippe Insberger un peu plus tôt dans la saison. Là aussi, Nicolas, championnat très difficile de National. On voit Cholet d'ailleurs qui est dernier. Il n'y a pas de cadeau dans ce championnat. C'est d'ailleurs assez rare de voir une victoire 4-0 à ce niveau-là. D'habitude, c'est très serré.
Ouais, ils sont relancés aussi. Ils sont sur deux victoires, un nul sur les trois derniers matchs. 34 points. Ça leur permet tout simplement aussi de recoller au Red Star qui a un match à moins avec 6 points. Et puis de prendre ses distances avec Sochaux qui revient tambour battant, qui est toujours en Coupe de France. Donc c'est une bonne dynamique aussi du côté de Sochaux. Donc il va falloir être costaud pour Niort. Je pense que Philippe Hinberger disait au mois d'octobre que la montée n'était pas forcément obligatoire. Là, dans la position où ils sont, je pense qu'ils vont vouloir y aller. Donc forcément, ça va être intéressant de suivre les matchs. Et cette victoire à Villefranche, qui était quand même 9e, est très importante en prenant 3 points là-bas et en mettant 4.
Olivier, quand on voit cette poule de nationale avec le Red Star, Martigues, Sochaux, Nancy, Dijon, Orléans, Nîmes, des gros clubs, des grands noms du championnat de France, c'est se dire aussi que c'est très difficile, ça devient de plus en plus dense dans ces niveaux-là, même en 3e division.
Oui, effectivement, hier soir j'ai écouté un peu à la radio le match l'Olympique lyonnais contre l'Olympique de Marseille, et justement les commentateurs parlaient de ces grands clubs qui dépérissent malheureusement, qui jouent à des niveaux inférieurs, comme on voit Sochaux qui a été très très longtemps en Ligue 1, Dijon aussi, Nancy aussi, qui étaient des clubs voilà, très connus à l'époque et qui aujourd'hui se battent voilà, pour retrouver l'élite. C'est sûr ça fait un championnat de très haut niveau, hein, voilà, c'est chaque match perdu ça fait mal, mais voilà, bah, j'espère que Bagnor va retrouver l'élite. Il faut quand même rappeler que le restart est mené à la mi-temps 2-0 à Sochaux quand même, ils ont remonté quand même, mais voilà, bah, la lutte va être intense. C'est bien d'avoir ces clubs qui ont été parmi l'élite et puis qui relèvent le niveau de national. Donc si un jour nos clubs Vendée montent en national, ça va être compliqué, parce que là effectivement c'est aussi des gros budgets. Alors effectivement quand je vois la Châtaigneraie voilà qui joue en national 3 avec ses petits moyens, bon voilà, c'est bien. Et donc ben voilà, que la fête continue voilà pour ces clubs, et puis que la lumière s'éternise sur eux.
Alors d'un ballon rond à l'autre, on va passer à la page handball.
Suite Vendée Sport, l'actu de la semaine.
Bonjour Steve Berger.
Bonjour.
Vous êtes entraîneur de l'équipe de Pouzauges de Hand en National 1. Vous restez sur une défaite à domicile face à Vernon, 23-25. Nouvelle défaite, même si il y avait du mieux, notamment dans le jeu, vous n'êtes pas passé loin finalement.
Oui, il y avait beaucoup de mieux pour redémarrer cette année 2024. Surtout sur le plan défensif, on a beaucoup travaillé là-dessus pendant la trêve et on prend que 25 buts. Malheureusement, on perd ce match, mais dans le contenu, c'était plutôt de bonne facture. Maintenant, il va falloir reproduire et aller chercher des points dans l'optique du maintien.
On rappelle hein, pour votre situation donc en National 1, vous êtes dernier, une seule victoire en 14 rencontres. C'est très difficile pour l'instant. Il y a eu une première partie de saison très difficile en National 1 face à d'ailleurs des grandes villes, des concurrents aussi directs qui n'ont pas les mêmes moyens que vous.
Oui, la première partie de saison a été compliquée, très compliquée, parce que la première raison, on est reparti avec un groupe jeune, un nouveau cycle qui a débuté, qui avait commencé l'année dernière, mais qui s'est poursuivi cette année. Et l'équipe est jeune, donc un manque d'expérience individuelle et un manque d'expérience collective aussi sur le fait où l'équipe est toute nouvelle. Donc l'amalgame c'est bien fait en dehors du terrain, le groupe vit bien, mais les résultats sportifs malheureusement n'ont pas suivi. Alors la première partie a été compliquée, on est dans une position très délicate. Maintenant il y a encore une petite fenêtre dans l'optique du maintien, donc on va essayer de s'engouffrer dedans et d'aller le chercher. Maintenant on sait que ça va être compliqué.
Quels seraient les leviers à pouvoir utiliser justement pour réaliser cet exploit, puisqu'on peut parler de maintien si jamais vous réussissez à vous maintenir?
Déjà il n'y a qu'une descente, donc il faut avoir l'ambition d'aller chercher une équipe qui est devant nous, une des deux équipes qui sont devant nous. Les leviers, je dirais que depuis le début de saison, on est sur les mêmes leviers, c'est-à-dire créer le travail. Voilà, donc les joueurs sont bien investis, lâchent rien, l'image du match du week-end dernier. Et à partir de là, on sait en balistiquement les axes que l'on devait améliorer, que l'on doit continuer à améliorer pour aller chercher des victoires. Maintenant, c'est sûr qu'on se retrouve face à des formations, à l'image du week-end dernier, avec d'anciens joueurs de professionnels de haut niveau, et que c'est pas facile. On manque encore une fois d'expérience et notre jeunesse. Et c'est une qualité, mais c'est aussi un défaut en termes d'expérience. Maintenant, on va continuer à se construire, et on est sur un travail, non pas d'une année, mais un travail en continuité sur plusieurs saisons. Donc maintenant, si on peut éviter la relégation et de repasser par la case N2, ça serait une bonne chose.
On rappelle quand même que la Nationale 1, c'est le troisième niveau national, et c'est vrai qu'on a On peut avoir l'impression que Pouzauges fait figure un petit peu d'ovni quand on voit des villes face comme Poitiers, la réserve de Nantes, la réserve de Cesson-Rennes. C'est aussi difficile d'exister face à ces clubs.
Bah, c'est sûr que les moyens financiers des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Maintenant, on en est conscient, on le sait. On sait aussi que la Nationale 1 pour Pouzauges, on n'a pas de prétention d'aller au-delà. Maintenant, je pense que on est quand même le club phare masculin vendéen, et Pouzauges a sa place en National 1 et peut prétendre s'y installer durablement, parce que le club est bien structuré, bien construit. Sur tous les plans, et surtout c'est un club qui est sain avec un projet qui est périn, contrairement à d'autres clubs où le sérieux et la santé financière ou autre ne sont pas spécialement autant en beau fixe qu'à Pouzauges. Donc voilà, c'est quelque chose quand même qui compte énormément, de penser qu'est-ce que les autres ont de mieux. Mettons en valeur nous, un club qui est en bonne santé, avec un public toujours aussi fidèle pour nous soutenir en plus. Donc voilà.
Vous avez raison de le rappeler, Pouzauges, c'est le club de référence du côté des garçons en handball. C'est un projet global aussi qui s'inscrit avec des jeunes joueurs locaux, les jeunes joueurs du CRU qui ont pour objectif à terme d'arriver dans cette équipe première.
Oui. Là, actuellement, on n'a pas de jeunes joueurs qui sont prêts à sortir pour l'équipe première. On essaie de relancer certains jeunes du CRU qui n'étaient pas spécialement sur le groupe Fagnon il y a quelques temps. Maintenant, il y a aussi un gros travail qui est fait sur les jeunes au niveau du club, avec des moins de 15 en région, des moins de 17 en région. On brille la qualification pour retrouver des moins de 18 nationaux. On est en bonne voie, ça s'est joué de peu l'an dernier, maintenant il faudra aller chercher cette année. C'est aussi une réserve qui depuis deux saisons est toute proche de monter en prénat et en prénational, donc au plus haut niveau régional, sous national 3. Et cette année, ben, ils sont bien partis pour enfin décrocher cette montée. Et ça, c'est important parce que Pouzeau, chez l'équipe première, oui, c'est la vitrine, c'est la locomotive, mais il y a tous les trains, tous les wagons restants du train derrière, et c'est tout aussi important. C'est un projet de club global et pas un projet uniquement d'équipe Fagnon, comme sur d'autres. Comme sur d'autres clubs.
Tout à fait. On rappelle hein, d'ailleurs que votre équipe réserve est troisième hein, de sa poule d'excellence, oui. Donc et tout à fait qui joue la montée. Vous avez évoqué le public tout à l'heure. C'est vrai que quand on parle de Pouzauges et quand on pense le hand à Pouzauges, le public, ça paraît indissociable. Une salle toujours pleine. Dans quelle mesure, finalement, ça vous aide quand vous êtes sur le terrain?
Bah, je dirais que au début de saison, et quand l'équipe est toute nouvelle avec des joueurs arrivant d'extérieur, faut s'y adapter, faut que ça soit une force. Et c'est vrai qu'au départ, ça peut être un peu impressionnant, un peu annihiler ces nouveaux joueurs qui arrivent. Maintenant, les joueurs s'y habituent vite, et c'est vraiment une chance d'avoir ce huitième homme pour toujours nous soutenir dans les bons et les moins bons moments. On a vraiment cette chance d'avoir ce public derrière nous, et beaucoup d'équipes de N1 aimeraient avoir comme nous une salle pleine à chaque match, et avec autant de monde pour nous soutenir. Et c'est très 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 loin d'être le cas en National 1. On fait même figure presque d'exception. Donc, contrairement à ce que vous dites tout à l'heure sur d'autres autres points, donc chaque club a ses avantages, ses inconvénients, et nous on a aussi nos points forts à revendiquer pour exister en N1.
Bon Steve, pour terminer cette interview, j'allais vous demander ce qu'on peut vous souhaiter pour cette fin de saison, mais j'imagine que la réponse ce sera le maintien.
Évidemment, c'est à souhaiter pour le club, pour les joueurs, pour le staff qui travaille auprès de l'équipe première, pour les dirigeants, pour tout ce qui compose le club. Et pour ça, le match week-end prochain à Gien qui ont été 8e va être très très important pour la suite. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, on portera dignement et fièrement les couleurs de Pouzauges et de la Vendée jusqu'à la fin de la saison, en espérant à la fin avoir le Graal du maintien en N1.
Parlez-moi un petit peu de cet exploit de l'équipe de France en championnat d'Europe. Ça donne quand même une belle image, puisque voilà, des nouveaux joueurs arrivent en équipe de France et on fait, je dirais, tourner la boutique sans accroc. Donc ça donne espoir pour vous, des clubs, de former un peu ces jeunes qui peut-être un jour joueront dans l'élite.
Oui, alors l'équipe de France maintenant, ça fait 30 ans que les résultats s'enchaînent, que l'équipe de France est installée dans le top niveau mondial. L'équipe de France a la chance au jour d'aujourd'hui, chose que nous n'a pas cette année à Pouzauges, c'est d'avoir des anciens, des joueurs cadres à l'image de Nicolas Karabatic pour passer le flambeau aux jeunes qui arrivent, et y a une transmission qui se fait en équipe de France à chaque fois de génération en génération, et avec encore une fois des joueurs cadres. Et nous à Pouzauges, malheureusement cette année, c'est un petit peu ce qui nous manque, les anciens pour encadrer ces jeunes joueurs. Après, c'est très bien pour le handball français que l'équipe de France masculine, mais aussi féminine, fasse partie du top niveau mondial. Maintenant, faut pas oublier que il y a eu prolongation, demi, prolongation en finale, et que ce sont les petites choses qui parfois font la différence. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, j'en reviens à Pouzeau, les petites choses, on n'arrive pas à les mettre de notre côté. Donc, ce qui prouve, même si le niveau n'est pas le même, que ce sont souvent les détails qui font la différence.
Merci beaucoup, Steve Berger. Bonne fin de saison.
Merci, au plaisir.
Au revoir. Et pour terminer cette émission, donc, je me tournais vers Olivier, spécialiste des sports mécaniques donc du Sud Vendée Sport. Olivier, tu as une bonne nouvelle à nous annoncer. On rappelle que tu as ton écurie, c'est 85 off-course, que tu participes à de nombreuses épreuves. Et là, la grande nouvelle, c'est que cet été, tu vas participer aux 24 heures du Mans.
Oui, effectivement, je vais retourner sur un circuit qui est Charmecœur, puisque je suis originaire de cette ville. Et donc là, je vais pouvoir à nouveau rouler sur le grand circuit des 24 heures du Mans dans la série Fun Cup. J'avais déjà réalisé ces courses en 2021. Donc il y a l'épreuve reine des 24 heures du Mans, et donc entre, il y a des courses support, donc c'est dans l'une d'elles que je vais participer. Et donc en 2021, j'avais roulé avec le team Villebrequin à bord de la voiture aux couleurs de l'Automobile Club de l'Ouest, organisateur des 24 heures du Mans Auto. Donc j'espère cette année amener avec moi Nicolas, puisqu'il a déjà fait une partie sport mécanique avec moi au mois de novembre lors de la finale du Trophée Tourisme Endurance au Mans, mais là c'était sur le petit circuit Bugatti. Donc là, j'espère faire vivre un peu auprès des auditeurs cet événement.
Alors concrètement, comment ça se passe? La course a lieu juste en amont des 24 heures du Mans, parce qu'il y a une donnée importante à prendre en compte, c'est qu'il faut que la route soit barrée.
Tout à fait. Donc la route, elle est fermée pendant une semaine à la circulation, puisque le grand circuit emprunte trois quarts du domaine public. Donc il faut fermer à la circulation pour pouvoir rouler sur le grand circuit qui fait 13 626 km. Et la journée pour moi va commencer le mercredi 12 avec les premiers essais, puisque nous roulons à trois pilotes sur la voiture. Et puis après, ça va se poursuivre avec les essais qualificatifs le lendemain et la course le vendredi après-midi.
90 équipages, c'est de l'endurance, donc la durée?
Alors c'est une endurance de 4 heures, voilà. Donc on était 90 concurrents en 2021, je pense qu'il y aura autant de concurrents, je pense, que cette année en 2023. La cerise sur le gâteau, c'est que là, il y aura du public, parce qu'en 2021,
oui,
il y avait pas beaucoup de public, puisqu'on était encore dans la période Covid. Donc là, ça va faire un peu bizarre de voir plein de spectateurs dans les tribunes, ça va faire un peu bizarre. Mais voilà, ça sera. Je suis très très heureux de repartir. Effectivement, c'est un groupe J, effectivement, c'est l'ordre de 10 000 euros l'engagement pour moi. Mais voilà, c'est le plaisir de revivre tous ces lieux magiques tels que la ligne droite des Inaudières et puis les villages d'Indianapolis et tout ça.
Est-ce que tu as besoin de partenaires pour cet événement?
Partenaires, c'est aussi un petit moment de pouvoir dire ceux qui veulent venir vivre cette aventure avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je cherche des partenaires effectivement, parce que c'est toujours le point noir, c'est toujours les budgets. Mais voilà, oui, effectivement, je serais très heureux de faire venir les entreprises et tout organisme avec moi dans cette aventure.
Donc vous êtes sur une course d'endurance de 4 heures, 3 pilotes,
oui,
à vous relayer.
Tout à fait.
Comment ça se passe? Combien de temps ça dure, les relais?
Alors les relais, c'est très simple. Hein. On a un plein qui est fourni par la Fun Cup, où tous les concurrents doivent rentrer dans la même période dans les stands et en sortir dans la même période, donc avec un changement de pilote et ravitaillement essence à chaque fois. Donc c'est des relais qui durent entre 37 et 40 minutes. C'est long parce que le circuit fait 13 km quand même. Il faut...
Oui, c'est assez long.
Ah, tout à fait, mais ça passe très vite. Hein. Je veux dire, voilà, vous n'avez pas le temps de... Vous êtes à peine parti déjà, faut déjà rentrer. Dommage. Mais voilà, on y prend vite goût. Et effectivement, quelle sensation énorme de rouler à fond dans cette fameuse ligne droite des Inaudières.
À fond, c'est-à-dire combien?
On roule à peu près à 205-210 km à l'heure, à peu près.
Sur quelle voiture? Sur quel type de voiture?
Alors, c'est une Fun Cup, c'est très simple, c'est un petit proto avec une carrosserie de coccinelle. Hein, voilà, ça fait plus de 20 ans que ce championnat existe, hein, la Fun Cup. C'est un châssis tubulaire avec un moteur Volkswagen de l'ITFC qui développe 170 chevaux et la voiture fait 780 kg.
Donc vous avez tous, à la ligne de départ, vous avez tous la même voiture finalement?
On a tous la même voiture, voilà. Tous la même voiture. En plus, on a des palettes au volant. Donc voilà, et c'est assez particulier parce que là, on roule la voiture, on n'est pas à gauche ou à droite pour qu'on dise, on est au milieu. On est vraiment centré au milieu. Donc on est au milieu de la voiture, c'est extraordinaire.
Et c'est incroyable, c'est-à-dire que vous êtes au milieu en fait, c'est au niveau du frein à main finalement, au milieu.
C'est ça, tout à fait, voilà, tout à fait. Donc on roule, c'est pour l'équilibre de la voiture, puisque tout est aligné, en fin de compte, vous avez le réservoir à l'avant, et derrière vous avez le pilote, et derrière il y a le moteur, voilà, donc c'est un équilibre parfait pour cette voiture qui est une propulsion à l'origine, mais qui tient vraiment dans les courbes. Donc c'est effectivement, lorsqu'on arrive à fond sur Indianapolis, on passe cette première courbe à fond et après c'est un freinage très violent pour passer l'Indianapolis. Donc là je peux vous dire que des fois vous faites des sueurs froides. Donc voilà, et puis voilà, on est 90 concurrents, donc ça fait beaucoup de monde, hein, des fois.
Donc 90 voitures sur 13 km et qui rentrent au stand au même moment.
Au même moment, voilà, tout à fait. Donc ça se joue beaucoup dans la ligne droite au coup d'aspiration, hein, vous êtes derrière une voiture, vous la doublez, il y a un autre qui vous suit juste derrière, et voilà. Donc des fois, voilà, c'est très très chaud.
C'est pas une course aussi où il y a des célébrités qui la font?
Oui, effectivement, il y a les célébrités. Il y a Julien Febro, le commentateur des Grands Prix F1 sur Canal+. Il y a Arnaud de Samer. Il y avait aussi...
Il n'y a pas eu Fabien Barthez ou Luc Alphand qui l'a fait?
Il y avait Claude Capéo, le chanteur aussi, mm-hmm. qui était là. Également, il y avait le Tim Villebrequin également, avec qui je roulais en 2021.
Et donc Olivier de Digue Radio aussi.
Voilà, tout à fait. Voilà,
c'est toutes les personnalités célèbres. Hein,
voilà, tout à fait. Et puis il y a des anciens pilotes qui ont, eux, ont participé à la grande épreuve, tels que Soyeri ou Alain Ferté. D'ailleurs, Alain Ferté qui m'avait donné des conseils sur les trajectoires, sur les rapports. Et voilà, des gens assez simples, mais voilà, on est content de rencontrer, qui nous apportent leur expérience.
Et vous avez toujours été, vous êtes toujours accompagné par le speaker mythique des 24 heures,
oui,
Bruno Vandestick.
Oui, effectivement, tout à fait. Je vais raconter une anecdote. En 2021, j'étais dans l'allée des stands et Bruno Vandestick, puisqu'on est originaire du même quartier du Mans, donc c'est pour ça qu'on se connaît et que Nicolas a eu l'honneur de l'interviewer, me voit, et il n'y a pas beaucoup de gens qui savaient que je roulais en Fun Cup en 2021 lors des 24 heures du Mans, et les gens étaient surpris d'entendre mon nom et mon prénom, et ils ont dit bonjour Olivier Boudvin, comment ça va, voilà. Et après les gens me voient, mais le gars là qui parlait, c'était toi? Oui, c'était moi. Donc voilà, ces petites anecdotes comme ça qui font plaisir.
Et sur le circuit, parce que tu dis parfois ça peut être chaud, on imagine qu'aussi le but c'est pas de s'envoyer dans les décors, donc certaines fois...
Non, parce que je peux dire qu'on est zioté dans la tour de contrôle là-haut, et chaque je dirais chaque mauvais comportement est vite sanctionné, et on se fait à chaque fois, je dirais, tirer les oreilles si, voilà, on fait pas, voilà, on respecte pas la chose. Bon, il faut, c'est une question de sécurité, hein, voilà, on n'est pas là pour se tuer, on est là pour, voilà, pour faire une belle course. Et puis c'est ce qui avait plu justement du 21, c'était les gens avaient apprécié ces courses, parce que voilà, il y a toujours des dépassements, puisque les 80 voitures, donc c'est obligé, il y a beaucoup de dépassements, et ça avait beaucoup plu aux gens, et c'est pour ça que cette année c'est revenu en course support des 24 heures du Mans, c'est la Fun Cup. Donc j'espère qu'on va donner autant de plaisir aux spectateurs comme on l'a fait en 2021.
Oui, et puis là du coup avec une jauge, il n'y aura pas de jauge, ce sera rempli, mais en tout cas il y aura du monde en tribune. Peut-être depuis la voiture on pourra entendre les clameurs sur certains dépassements.
Ah oui, je confirme, je disais des fois dans les magazines que les pilotes à bord de leur proto, ils sentaient les odeurs de merguez et de frites, et c'est vrai. je confirme, des fois qu'on passe, on sent les odeurs de et puis le manège aussi, voilà.
Le camping aussi, c'est vrai que les 24 heures du Mans, c'est... c'est une passion pour certains, c'est l'événement de l'année, et c'est aussi l'opportunité sur tout un week-end, un grand week-end, eh bien de venir, et donc avec toutes les courses en amont de la grande course des 24 heures le samedi.
Tout à fait, c'est une grande course, mais aussi c'est un événement familial, parce que beaucoup de gens viennent là, passer la journée avec leurs enfants, assister à la course. Voilà, ça a toujours été comme ça, les 24 heures du Mont-Auto. Je vois encore les gens qui, là, ils sont sur la butte, ils vous regardent, ils sont en train de piquer, et vous êtes dans la voiture. Voilà, c'est ça, là, les 24 heures du Mont.
C'est vrai que, alors aussi, en plus, le système se développe. Il y a les 24 heures du Mans moto, donc auto, moto, les 24 heures du Mans camion. Je sais qu'aussi, il y a les 24 heures du Mans vélo qui existent à la fin du mois d'août. C'est presque devenu une marque, les 24 heures du Mans. Il faut se dire aussi, il faut rappeler quand même, pour les personnes qui suivent un peu moins la course automobile, qu'à l'échelle mondiale, les 24 heures du Mans, c'est la référence de l'endurance.
Exactement, c'est l'une des plus grandes courses au monde, avec les 500 miles d'Indianapolis, le Grand Prix de Formule 1 de Monaco. L'année dernière, c'était 325 000 spectateurs, retransmission dans 16 pays à travers le monde. Donc, effectivement, c'est un événement majeur.
C'est toujours plein.
C'est toujours plein, oui, tout à fait. Ça attire autant de ferveur. Surtout que déjà, les dernières, il y avait la bataille Porsche, Ferrari, Toyota et Cadillac. Cette année, il va se rajouter BMW, Lamborghini, Aston Martin. Et donc, ça va être encore une très belle fête.
Et pour avoir vécu les trophées Endurance Tourisme au mois de novembre avec Olivier sur le circuit des 24 heures, étant novice dans le sport mécanique, de rentrer sur ces circuits-là et dans les stands et de découvrir l'envers du décor, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça fait pétiller les yeux, malgré qu'on connaît ou qu'on connaît peu, d'avoir ce grand circuit autour de vous. Je me souviens de Michelin aussi, qu'on voit le grand pancarte Michelin, qu'on voit partout à la télé, dans les films aussi, qui sortent. Et voilà, c'est des moments qui sont uniques et qui sont importants. Et on se rend compte de l'importance des 24 heures du Mans en France, mais aussi mondialement, tout simplement.
Et puis alors, c'est vrai que le sport automobile, on connaît très bien le sport automobile professionnel, que ce soit la Formule 1, que ce soit la moto, il y a tout un tas de disciplines, le rallye, etc. Mais finalement, les sports mécaniques amateurs ou semi-professionnels, on a du mal à imaginer. Et finalement, c'est aussi très accessible et c'est des expériences qui peuvent être très spectaculaires.
Oui, effectivement, parce que beaucoup de pilotes, que ce soit... Que ce soit en endurance ou en Formule 1, commence toujours par une base amateur au départ, voilà. Et puis après, chacun fait son chemin, comme on dit. Et en fin de compte, c'est tous ces concurrents qui font un peu l'aura des sports mécaniques, que ce soit auto et moto. Et donc ça apporte beaucoup. Il faut savoir aussi que les 24 heures du Mans, tout le monde dit, oui, c'est... C'est un peu course de voiture, et en fin de compte, les 24 heures du Mans, si les gens savaient l'origine des 24 heures du Mans, c'est un peu surpris, parce que l'origine des 24 heures du Mans, c'est tout simplement, c'était un laboratoire roulant, c'était le début des voitures. Donc il faut savoir qu'avant, les routes, c'était de la terre. Et en fin de compte, c'est grâce, puisque c'était les 24 heures du Mans ont été développés par les ponts et les chaussées qui sont maintenant la DDE.
Oui.
Et voilà, effectivement, qu'on a développé plein de choses, les pneumatiques, les freins. Le goudron, les goudrons qu'on a sur la route, ça vient des 24 heures du Mans. Les freins à disque qui ont été développés par Jaguar en 1953. Les pneus, les pneumatiques en caoutchouc, parce qu'avant c'était des roues en bois. Donc ces choses-là, la course amène toujours des nouvelles technologies qu'on retrouve aujourd'hui sur nos voitures personnelles.
Alors justement, d'un point de vue personnel, parle-nous un petit peu de ton écurie, c'est 85 off-course.
Tout à fait.
Où c'est avec elle que tu as pu courir, donc notamment sur le trophée Tourisme Endurance. Et c'est aussi avec elle que tu vas courir aux 24 heures du Mans.
Ah non, pas celle-là. Non.
Ah non, pardon.
Voilà. Non, l'autre, c'est une Fun Cup. Là, c'est vraiment une voiture issue de la série. C'est une 206 S16, des rencontres Peugeot Sport. Je participe à ce championnat aussi qui, pour moi, je roule dans la série Endurance, effectivement. Ça permet à des gens, effectivement, qui n'ont pas des gros budgets, de pouvoir survivre leur passion. Puisqu'on roule en plus sur des très beaux circuits, puisqu'on roule à Magny-Cours, là on va commencer au mois d'avril là-bas. On roule sur le circuit pour l'Icar l'année dernière, le circuit de Nogaro, Val-de-Vienne, Le Mans. Donc on roule à travers la France. Et c'est une jolie vitrine, voilà, également.
Et puis tu offres la possibilité à des pilotes de venir sans avoir leur équipement, de venir simplement rouler sur ta voiture.
Tout à fait.
Sur ta voiture, c'est ce qui est important.
L'année dernière, j'ai eu trois pilotes, dont une pilote féminine, qui a roulé à bord de ma voiture. Et donc voilà, c'est une manière aussi d'entrer un peu dans ce monde, hein, parce que bah, c'est vrai que quand on est novice, on sait pas trop où aller, et donc bah, je permets à des pilotes novices de pouvoir accéder à la compétition, puis aussi de rouler avec des pilotes confirmés également.
Alors c'est une 206, j'ai envie de dire rien de plus banal, sauf que les couleurs sont un peu plus flashy, et c'est peut-être aussi ce qu'il y a sous le capot qui change un petit peu par rapport au 206 traditionnel.
Alors sur le capot il y a le logo DIG, et sous le capot il y a un peu de...
Tout à fait. Oui, c'est des voitures qui sont quand même préparées, quand même, malgré qu'elles sont proches de la série, puisque c'est des voitures qui ont été fabriquées par Peugeot Sport, comme actuellement la 208 Racing Cup. Et donc Peugeot a eu l'idée de faire des séries où justement l'amateur pouvait accéder à la compétition. Donc c'est des voitures où on retrouve beaucoup de pièces issues de la série. Et donc c'est des coûts de maintenance moindres que si vous achetez vraiment la voiture de course, qui là c'est des budgets énormes.
Et donc on relance l'appel, si vous êtes intéressé pour sponsoriser cette voiture, voilà. N'hésitez pas. Contactez Olivier.
Voilà, tout à fait. Ils peuvent aller sur ma page internet clandestine85.com et ils retrouveront toutes mes coordonnées.
Et si vous êtes fan de sport mécanique, Olivier a son émission aussi sur DIG Radio Sud Vendée, une fois par mois, qui s'appelle Full Course Yellow.
Alors pour terminer cette partie sport mécanique, Olivier, on parlait donc de cette 24 heures du Mans, de la Fun Cup à laquelle tu vas participer. On estime à donc à environ 90 participants. Est-ce qu'il y a un objectif de place, de classement? Est-ce que la compétition à la fin te titille finalement de cette envie de faire la meilleure place possible?
Oui, effectivement, lorsqu'on fait de la course de voiture, on cherche toujours à aller le plus haut possible dans le classement. Ça, c'est comme ça. C'est pour ça que je roule avec un team qui a déjà fait ses preuves et qui a déjà remporté des courses en Fun Cup, qui s'appelle le No Limit Racing. C'est une équipe dirigée par Ludovic Bellinato, qui a déjà de l'expérience en Fun Cup. Donc c'est pour ça que j'ai choisi un top team pour aborder cette course dans les meilleures conditions.
Merci beaucoup Olivier, vous l'entendez peut-être, il y a les travaux qui arrivent à DIG Radio, donc c'est le temps pour nous de terminer cette émission. Merci Nicolas, merci Olivier.
Merci à toi.
Et puis on va se retrouver dans quelques semaines pour un nouvel épisode du Sud Vendée Sport avec encore de super invités. Merci, au revoir.
Merci, à bientôt.
Au revoir.
Toute la journée, vous écoutez DIG Radio sur digradio.fr.